L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger Amina Younsi, experte algérienne en agriculture et en infrastructure agricole de qualité. Avec elle, nous allons analyser les causes du retrait russe de l'accord céréalier et ses répercussions sur la sécurité alimentaire dans plusieurs régions du monde, notamment l'Afrique. Nous nous focaliserons également sur les problèmes structurels, technologiques et climatiques de la production agricole sur le continent africain. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Ce 24 juillet, le président Vladimir Poutine a publié un article intitulé « La Russie et l'Afrique, unir nos efforts pour la paix, le progrès et un avenir prospère ». Il y évoque les liens économiques et humanitaires entre Moscou et les pays du continent, le prochain sommet Russie-Afrique et plaidé pour l'octroi d'une place légitime aux pays africains au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et des G20. La question de la sécurité alimentaire de l'Afrique, notamment en relation avec la fin de l'initiative de la mer Noire, également connue sous le nom d'accord céréalier de la mer Noire, occupe une place importante dans l'article. Je vous invite à écouter un extrait de ce texte rédigé par le président russe.
Nous comprenons l'importance de l'approvisionnement alimentaire ininterrompu pour le développement social et économique et le maintien de la stabilité politique des États africains. Par conséquent, nous avons toujours accordé beaucoup d'attention aux questions relatives aux livraisons de blé, d'orge, de maïs et d'autres cultures aux pays africains. Et nous l'avons fait aussi bien sur une base contractuelle que gratuitement, à titre d'aide humanitaire, y compris dans le cadre du Programme alimentaire des Nations Unies. Ainsi, en 2022, la Russie a exporté en Afrique 11,5 millions de tonnes de céréales et presque 10 millions de tonnes pendant les 6 premiers mois de l'année en cours. Et ce, malgré les sanctions imposées sur notre exportation qui entravent vraiment sérieusement l'exportation des aliments russes vers les pays en développement, compliquent la logistique des transports, l'assurance et les transactions bancaires. Beaucoup ont probablement entendu parler de l'accord céréalier destiné initialement à assurer la sécurité alimentaire globale, réduire les risques de famine et aider les pays les plus pauvres d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. C'est en effet la raison pour laquelle la Russie s'est engagée à contribuer à sa réalisation. Mais cet accord, présenté en public à l'Occident comme une manifestation de leurs préoccupations et un bénéfice pour l'Afrique, a été de fait cyniquement utilisé uniquement pour l'enrichissement des grandes entreprises américaines et européennes qui exportaient et revendaient le blé ukrainien. Jugez par vous-même, en près d'un an, 32,8 millions de tonnes de marchandises ont été exportées depuis l'Ukraine dans le cadre de cet accord, dont plus de 70% sont parvenus aux pays à revenus élevés et à revenus intermédiaires élevés, y compris l'Union européenne, tandis que les pays comme l'Éthiopie, le Soudan, la Somalie, aussi bien que le Yémen et l'Afghanistan, ont reçu moins de 3% du volume total, soit moins d'un million de tonnes. En même temps, aucune des conditions de l'accord concernant la levée des sanctions sur l'exportation russe de céréales et d'engrais sur les marchés mondiaux n'a été remplie. En outre, des obstacles sont posés même à notre transfert gratuit d'engrais minéraux aux pays nécessiteux, les plus pauvres. Des 262 000 tonnes d'engrais bloquées dans les ports européens, nous n'avons réussi à envoyer que deux lots, 20 000 tonnes au Malawi et 34 000 tonnes au Kenya. Le reste est toujours entre les mains malhonnêtes des Européens. Et ce, malgré le fait qu'il s'agisse d'une démarche purement humanitaire qui, en principe, ne devrait en aucune façon être concernée par des sanctions. Compte tenu de ce qui précède, la prolongation de l'accord céréalier, qui n'a pas réalisé son objectif humanitaire, a perdu son sens. Nous nous sommes opposés à la prorogation ultérieure de cet accord, et dès le 18 juillet, son application a cessé. Je tiens à vous assurer que notre pays est capable de substituer le blé ukrainien aussi bien à titre commercial qu'à titre gratuit, surtout que, cette année encore, nous nous attendons à une récolte record.
L'Afrique subsaharienne pourrait représenter plus de la moitié de la croissance démographique mondiale entre 2019 et 2050, avec un ajout prévue de 1,05 milliard de personnes. En fait, la population de cette région augmente de 2,8% par an, soit deux fois plus que celle de l'Asie du Sud. Sur fond de cette explosion démographique, la dégradation des terres est un problème grave en Afrique subsaharienne. Selon le rapport spécial du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, 46% des terres africaines souffrent de dégradation. Les changements de climat réduiront sans doute considérablement la superficie des terres agricoles dans certaines parties de l'Afrique subsaharienne. Les facteurs humains sont un autre facteur important de la dégradation des terres. Les mauvaises pratiques agricoles exacerbent les processus d'érosion et de salinisation. Une mauvaise gestion de l'irrigation et de la fertilisation accélère la pollution, la salinisation et l'acidification des sols. À ça s'ajoute la mauvaise qualité des graines, souvent importées dans de très mauvaises conditions, ce qui aggrave encore la situation de l'agriculture africaine. Alors, pour parler de ces questions fondamentales concernant l'agriculture et la sécurité alimentaire sur fond de non-renouvellement par la Russie de l'accord céréalier de la mer Noire, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger l'une des meilleures expertes dans le domaine, Amina Younsi, experte algérienne en agriculture et infrastructures agricoles de qualité. Amina Younsi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonjour.
Tout le plaisir est pour nous. La première question, depuis quelques mois, alors une réduction importante du fret maritime. C'est-à-dire que dans ce contexte de non-renouvellement de l'accord céréalier par la Russie, une réduction importante du fret maritime ukrainien, sans aucun dommage sur les pays africains. Ça, on n'a pas constaté une quelconque fluctuation dans les livraisons. Et l'Ukraine expédiait de grandes quantités de céréales à rythme soutenu à travers les territoires de certains pays européens, seulement parce qu'il y a 5 qui refusent ce transit. Et ceci a conduit à une chute des volumes des expéditions terrestres du grain ukrainien de 52 000 tonnes à 22,5 000 tonnes, soit à peu près 50%. Et malgré ça, personne ne remarque la moindre perturbation donc sur le marché mondial et sur les livraisons aux pays africains. Alors, Madame Younsi, comment analysez-vous l'impact de non-reconduction par les autorités russes de l'accord céréalier de la mer Noire sur les approvisionnements des pays pauvres et, in fine, n'est-ce pas la Russie qui a toujours fourni les pays africains, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter.
Alors, pour répondre à cette question, je crois qu'il faut être un peu prudent. Dans le monde, les pays producteurs de céréales, nous les connaissons, c'est l'Australie, le Canada, l'Europe, l'Inde, le Pakistan, la Russie, la Turquie et l'Ukraine. Donc, ces pays sont des producteurs, des exportateurs. Donc, si l'Ukraine aujourd'hui, en 2023, est en sixième position d'exportation, ce n'est pas la faute à la Russie. Si le blé ukrainien n'arrive pas à atteindre les continents africains et les pays fragiles, ce n'est pas la faute à la Russie. Ça, c'est un point important, parce qu'il y a d'autres causes qui aggravent la situation. Donc, par rapport aux exportations, donc il faut dire que la Russie assure quelques 20% d'exportation au niveau mondial, le Canada, quelques 14%, les États-Unis, 13,4%, la France, 9,5%, l'Ukraine, 9%, et d'autres petits pays, autres pays européens, d'accord, qui assurent cette exportation de blé pour des pays importants, notamment ceux les plus fragiles qui sont grands importateurs, le Nigeria, le Bangladesh, le Pakistan. Et aussi, on a des pays phares comme la Chine, l'Égypte, la Turquie. Ce sont des pays qui importent pour réexporter dans les pays africains. Donc, il n'y a pas une cause directe qui serait due à la non-reconduction de l'exportation du blé ukrainien sur la famine au niveau du continent africain.
Donc, si j'ai bien compris, Madame Younsi, il y a des pays qui achètent le blé, pas pour le consommer, mais c'est pour le faire du dumping commercial en le revendant à d'autres pays du Sud.
Exactement. Par exemple, vous avez la Turquie est un pays important en matière de, d'importation de blé de la Russie. Vous avez la Chine qui importe aussi du Canada et importe aussi des États-Unis et importe de la France. Donc, il y a plusieurs sources d'approvisionnement de ces pays qui sont en train de constituer maintenant le BRICS, qui vont jouer un rôle important dans la nouvelle réorganisation économique des pays en développement avec la Chine, la Russie et la Turquie, l'Afrique du Sud. Ça, c'est quelque chose de très… de très explicite, on peut le vérifier. Maintenant, par rapport au classement des pays exportateurs, nous avons en 2023, la Russie toujours garde sa première position, l'Union européenne est après la Russie, ensuite après la Russie c'est l'Australie, ensuite c'est le Canada, ensuite les USA, pour que vienne l'Ukraine, elle est en sixième position. Donc on ne peut pas accuser la Russie d'être la cause de la pénurie mondiale. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que depuis la mise en œuvre de l'accord de la mer Noire sur l'exportation de céréales, il y a eu quand même 30 millions de tonnes qui ont été acheminées dans 45 pays du monde, dont 750 000 tonnes dans les pays fragiles, la Somalie, le Soudan, le Kenya. Donc, toute l'Afrique australe a été nantie. Et en plus, cette non-reconduction, la Russie s'est engagée à prendre en charge les pays fragiles, absolument, moyennant le non-paiement, mais à titre humanitaire. Et donc, des solutions existent pour alimenter l'Afrique. Ce qui aggrave la situation de l'Afrique, comme vous l'avez bien souligné, c'est la dégradation, les changements climatiques, la dégradation des sols, la perte des sols, les systèmes alimentaires qui ne sont pas adaptés à la production en Afrique. Donc, par rapport à ce point-là aussi, il faut dire que la non-reconduction va au contraire renforcer certains liens qui sont en train d'émerger. Comme par exemple la Turquie qui se ravitaillait de la Russie va se ravitailler après d'autres pays. Par exemple, certains pays européens vont perdre certains quotas et l'Égypte va récupérer, la Turquie va récupérer. Ce seront des nouveaux leaders en matière de commerce international des céréales sur l'Afrique. Donc, des solutions existent, de nouvelles initiatives, de nouvelles énergies, de nouveaux champions vont émerger de cette non-reconduction, bien au contraire. L'Algérie aussi joue un rôle très important parce que l'Algérie a développé beaucoup de zones de libre-échange, par exemple par rapport à la Mauritanie, la Libye. Il y a un très grand port au niveau de Cherchel qui va être un hub au niveau africain. Donc, il va être vraiment la plaque et la cheville ouvrière entre le transit international pour l'Afrique et via l'Afrique. Donc, il y a plein d'atouts à cette reconduction des énergies nouvelles, mais il y a prudence à dire qu'il y a d'autres problèmes qui sont en train d'aggraver la situation en Afrique. Voilà.
D'accord. Alors, juste avant de passer, Madame Younsi, à la deuxième question, j'aimerais bien, comme vous l'avez déjà évoqué, juste vous poser la question sur les livraisons des céréales russes vers l'Algérie. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des quotas qui ont augmenté? Parce qu'on sait bien que l'Algérie s'est toujours fournie essentiellement de France.
Jusqu'à présent, jusqu'à 2023, les chiffres montrent que l'Algérie se ravitaille principalement à peu près de 19% des exportations françaises qui sont à 9,26%. Donc, il y a les provenances viennent surtout de la France en raison de la facilitation au commerce. Donc, dans le cadre des négociations pour être dans le BRICS, il y a aussi des politiques pour favoriser l'accès et la facilitation du commerce. Ceci dit, il y a aussi la proximité géographique qui est importante.
Absolument.
Donc, ce n'est pas une question de préférence de pays, ce sont des questions géographiques et de facilitation liées au commerce. Et tous les pays au niveau du BRICS sont en train de développer justement afin de faciliter les barrières douanières, les barrières non douanières. Beaucoup de choses sont en train de se mettre en place par rapport à ça. Et okay. Surtout que nous savons avec les sanctions européennes sur la Russie vont causer la perte de certains pays par rapport à leur relation avec la Russie pour l'importation des céréales. Donc l'Algérie, la Russie va favoriser ses alliés pour la distribution de ces produits vers le continent africain. Voilà.
Bien. Alors, la seconde question, Madame Younsi, selon les autorités russes, et vous venez de le souligner d'ailleurs à juste titre et d'une manière pertinente, finalement, l'Ukraine n'est pas aussi déterminante dans le commerce des céréales à l'échelle internationale. Alors, les autorités russes disent que l'approvisionnement des pays africains ne dépend pas en aucune mesure de la mise en œuvre de l'accord céréalier avec l'Ukraine. Et nonobstant qu'il y ait un accord ou non, la Russie fournira, c'est ce que vous avez rappelé d'ailleurs, selon le président Poutine, la Russie fournira les volumes nécessaires dans tous les cas, qu'il y ait un accord ou non. Et M. Poutine a même promis de livrer du blé et des engrais gratuitement à certains pays. Alors, moi, ma question, outre le contexte actuel qui a été créé donc, suite au lancement de l'opération spéciale russe en Ukraine, promouvoir suffisamment la production locale africaine, n'est-ce pas le meilleur chemin pour assurer d'une manière souveraine sa sécurité alimentaire ? Au lieu d'attendre, comme d'habitude, des dons, toute mesure gardée, hein, en ne comprenant que certains pays, bien sûr, qui peuvent avoir des problèmes. Mais nonobstant, c'est-à-dire la situation actuelle, il faut être souverain pour assurer sa sécurité alimentaire. Qu'en pensez-vous ?
Oui, justement, la question de la souveraineté alimentaire, elle est posée par plusieurs pays, pas simplement la souveraineté, mais la sécurité. Même l'Europe aujourd'hui parle de sécurité alimentaire, chose qu'elle ne parlait pas avant. Parce que les systèmes agricoles actuels et les contextes actuels font que, par exemple, certains pays européens importent tout, mais ils se rendent compte finalement qu'ils ne produisent pas ce qu'ils consomment. Donc cette problématique n'est pas propre et spécifique à l'Afrique ou les pays en développement. Donc par rapport à cela, pour l'Afrique, certes, la production locale est importante, mais c'est un choc pour l'Afrique d'aller directement vers cette production locale en cet état de situation, de dégradation, de changement climatique, de fragilisation des États sur le plan de la gouvernance. Mais il y a eu en 2005 des initiatives importantes africaines, notamment celles qui ont des réunions qui se sont déroulées en Guinée équatoriale. C'est la déclaration de Malabo. C'est les États africains se sont réunis pour dire stop à la faim. Nous allons prendre toutes les mesures qu'il faut pour éradiquer cette faim, augmenter la productivité, viser l'exploitation locale, développer des énergies internes à l'Afrique. Et il y a eu donc des axes majeurs, c'est-à-dire il y a eu des initiatives. L'Afrique, bien avant la guerre, a pris conscience de cela. Il y a eu aussi la prise de conscience que l'Afrique doit s'autofinancer. Les pays doivent apprendre à s'autofinancer entre eux, publiquement ou par le
biais du public. C'est très important, ça. C'est très important. Voilà,
et aussi la recherche des stratégies pour atteindre des objectifs de sécurité, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'importer des agricultures, c'est-à-dire des systèmes, des politiques agricoles non adaptées à l'Afrique pour pouvoir être en sécurité. Bien au contraire, la sécurité vient de l'intérieur, parce que la prospérité va commencer de là. Il y a eu, par exemple, des initiatives de l'Afrique pour, par exemple, allouer 10% des budgets pour garantir cette efficacité et de booster un peu l'agriculture africaine. Il y a eu aussi des débats sur le développement institutionnel qui est défaillant actuellement. L'Afrique d'aujourd'hui n'est plus l'Afrique d'hier. L'Afrique a pris conscience qu'elle ne veut plus, elle veut être décolonisée, elle n'a pas besoin d'être paternée. Elle veut s'asseoir à table avec tous les États à parts égales.
Bien, alors maintenant, nous allons passer justement à ces problèmes dont souffre l'agriculture africaine et qui sont absolument des obstacles et qu'il faudrait absolument, auxquels il faut absolument faire face. Alors, les producteurs africains, notamment subsahariens, font face à des contraintes telles que la faiblesse et l'incertitude des marchés, des intrants et des produits, et les énormes pertes après récolte, l'incertitude climatique, parce que l'agriculture en Afrique, elle est toujours encore tributaire des précipitations de pluie, et puis les coûts de transactions élevés et la faiblesse des programmes de recherche et de vulgarisation agricole, c'est-à-dire d'éducation vraiment à ces questions-là. Alors, à votre avis, Madame Younsi, comment faire face justement à ces problèmes-là que je viens de citer et quelles sont les infrastructures nécessaires à mettre en place, comme les routes, l'irrigation, éducation de base, système d'information sur les marchés, recherche et vulgarisation agricole et recherche et développement de nouvelles techniques?
Alors, immédiatement, vous savez que l'Afrique est endettée, selon les chiffres de la Banque mondiale à fin 2022, de 1140 milliards de dollars contre 354 milliards en 2010. Une progression est vraiment très grave. Il y a le problème des taux d'intérêt qui ont augmenté, qui ont fragilisé le continent, qui ont fait que les États sont incapables de répondre à effacer leurs dettes. Et aussi, comment voulez-vous que les pays africains développent des infrastructures? Aujourd'hui, il y a l'ONU dit, l'Union européenne développe des programmes sectoriels pour mettre l'Afrique sur le chemin du développement des infrastructures, parce qu'il y a un équilibre, il y a un effet gagnant-gagnant dans la situation. Donc, l'Afrique seule ne peut pas. L'Afrique a besoin d'être aidée et entraidée. Donc, il y a, par exemple, le Ghana et les Zambie sont dans une situation critique. Mais il y a d'autres pays qui aussi sont sortis de l'endettement. Vous avez, par exemple, le Rwanda. Le Rwanda a commencé par des actions liées à l'éducation et la santé. Par exemple, pour l'éducation, il a mis en place l'anglais pour absorber les technologies modernes et il a misé sur la santé. Il a construit des hôpitaux, il a mis en place un réseau de fabrication des médicaments à base de ressources naturelles locales. Jusqu'à, par exemple, il y a des sociétés, il y a des entreprises rwandaises, par exemple, qui font du 90 millions de dollars en prévision 2027. C'est-à-dire, c'est mitigé, les États, c'est mitigé. C'est pour ça qu'on dit que les États africains doivent collaborer et se coacher entre eux pour voir comment sortir de la crise. Donc, le problème de l'endettement a fait que les pays africains n'ont pas pu respirer, n'ont pas pu penser à leur développement. Mais, par contre, il faut noter que dans les pays de la CEDEAO, par exemple l'Afrique de l'Ouest, il y a quand même une infrastructure support pour l'industrie. 31 normes harmonisées avec l'Europe et internationale, une harmonisation internationale pour la valorisation de certaines chaînes de valeur utiles pour l'Afrique ont été validées à l'échelle internationale. C'est impressionnant. Les pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, ils ont un système de surveillance de marché qui est une vraie ébauche très forte pour faire face aux accidents liés à la sécurité des produits et pour donner de la crédibilité aux produits lors de la commercialisation avec l'Europe. Et je crois que cet effort, il est à applaudir et il est remarquable. L'Algérie, elle a un dispositif de surveillance de marché qui est mis en place, mais l'Afrique, après 2011, a démarré, mais d'une manière, aujourd'hui, elle compte quelques 50 institutions liées à la surveillance de marché. L'Afrique de l'Ouest, simplement, 50 institutions. Donc, c'est très important, les systèmes d'accréditation, les organismes de certification des produits, les organismes d'inspection, tout ce système est mis en place. Il y a de la coopération internationale, les accréditeurs internationaux sont en Afrique, ils ont validé toutes ces infrastructures. Ils fonctionnent, le système africain fonctionne selon des normes approuvées par l'international. Je veux dire, il y a des efforts vraiment, des efforts sur lesquels l'Afrique va s'accrocher pour bâtir son industrie, son agriculture. Parce que sans ces infrastructures, il est impossible de commercer, il est impossible de se développer.
Et d'abord, il est impossible de produire d'abord localement.
De produire. Par rapport à la production, c'est une autre paire de manches parce qu'il y a un gros effort d'innovation en matière de système de production. Doit-on produire de la même manière qu'on produit aux États-Unis, au Canada, en Europe? C'est ce pas que l'Afrique et le Moyen-Orient doivent faire, parce que nous sommes embarqués dans le problème de la sécheresse et de la sanité des sols. Le problème des engrais est un problème crucial, le problème des engrais. Une lame tranchante. Une lame tranchante, parce que c'est vrai que l'Afrique ne peut pas arrêter d'importer les engrais dans une première phase, mais elle doit le faire avec raisonnablement, en parallèle avec un développement de systèmes agricoles adaptés à l'Afrique, par exemple, le développement des chaînes de valeur en s'appuyant sur les ressources biologiques locales, les ressources agricoles locales, le développement d'une chaîne de production des composts et des engrais organiques. Aujourd'hui, le monde s'arrache les produits organiques. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise sanitaire à l'échelle mondiale. Les cancers ont augmenté. Le problème des diabètes. Il y a les États-Unis, la Chine et l'Europe sont prêts
à payer. Je rappelle juste pour nos auditeurs que Madame Younsi, en désignant les produits organiques, c'est les produits bio. Bio, c'est-à-dire qui n'ont pas le... Ça, organique, c'est un peu un terme technique. Donc, juste pour dire à nos auditeurs que c'est les produits bio qui n'ont pas subi un très grand traitement chimique.
Bien. Et pourtant, c'est à coût de milliards, de centaines de milliards de dollars qui sont demandés sur le continent américain, sur le continent européen. C'est une chance pour l'Afrique de développer des produits avec les standards bio. Et aussi l'opportunité de l'infrastructure qu'il faut. Moi, je viens de finir une mission importante avec le programme, avec l'Union européenne, sur le système de certification biologique en Algérie. Et croyez-moi, si nous devons harmoniser le système de production biologique au niveau de l'Afrique, on peut nous offrir une nouvelle sécurité des produits à l'échelle internationale. L'Afrique, et avec le Moyen-Orient, nous allons produire une nouvelle façon de manger, une nouvelle façon de produire. Oui.
Alors, Madame Younsi, donc je vous remercie pour tous ces détails, mais j'aimerais bien que vous demandiez, est-ce que, parce que et vous avez tout à fait raison de le souligner, le taux d'endettement est vraiment abyssal par rapport aux capacités économiques actuelles de l'Afrique. Mais ma question est, est-ce que les États n'auraient pas tout à gagner à associer le privé dans cette entreprise de développement d'une agriculture technologique, innovante et viser cette souveraineté alimentaire. Pas juste s'appuyer sur les fonds publics.
Oui, bien sûr. Comme je disais tout à l'heure, lors de la conférence, la réunion qui s'est faite en Guinée, justement, les États, les décideurs politiques ont vu que la nécessité de coopérer avec le privé, de coopérer avec l'agro-business, avec la société civile, c'est-à-dire de mettre en œuvre des programmes au niveau de la coopération régionale, d'attirer, mais via les entreprises. Alors le problème, justement, c'est comment rendre durable les chaînes de valeur agricole pour pouvoir passer la transformation, parce que c'est les secteurs de l'économie où il y a une force dans le domaine de l'agriculture. S'il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'entreprise agroalimentaire. Et dans, là, le monde de l'agro-business est très intéressant.
Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de pays quand il n'y a pas d'agriculture. Si on ne peut pas nourrir, peuple, de quel pays peut-on parler?
L'Afrique est riche par ses richesses naturelles, biologiques, agricoles, est riche. Mais la construction des entreprises privées doit être d'une façon, doit se faire pour valoriser toutes les chaînes de valeur, l'Afrique doit arrêter d'exporter les matières premières brutes, mais Absolument. Elle doit aller vers la transformation agricole et vers les chaînes de valeur, développer des chaînes de logistique. Toutes ces nouvelles activités qui visent à renforcer la chaîne de valeur et capter la valeur ajoutée et la laisser à l'intérieur de l'Afrique, ça a été noté lors de la rencontre en Guinée équatoriale, justement. Mais il reste quand même que les normes de commercialisation, les normes de logistique doivent être celles, justement, qu'exigent les pays occidentaux. Et là, il y a un grand travail à faire aussi, parce que il y a, par exemple, là, je vais parler de produits très simples, hein, très très simples, le miel. Le miel, pourquoi le miel africain ne traverse pas les pays occidentaux? Sans citer les continents et les pays, il y a des normes qui sont au contraire contre le produit miel africain. Le miel, par exemple, algérien ou africain, contiennent moins d'humidité, ne contiennent pas d'antibiotiques, ils ne sont pas contaminés. Alors que l'Afrique reçoit des miels frelatés, qui ne sont vraiment pas des miels, c'est des sucres. L'Afrique importe des miels qui contiennent des antibiotiques issus des traitements des ruchers à l'échelle mondiale. Et ça, c'est critique. Pourquoi ce n'est pas l'inverse? Pourquoi l'Afrique ne va pas vers une entente globale d'une norme africaine sur la qualité des miels? C'est nous qui imposons les règles par rapport à ce genre de produits qui constituent la force du développement rural, la force du développement et la durabilité des chaînes de valeur. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'accent, il faut regarder sérieusement, attentivement les standards liés aux produits africains et les mettre en valeur conformément et sans faire obstacle au commerce. Sans faire obstacle au commerce. Parce que, quoi qu'il en soit, nous mettons des services et des biens sur le marché international, l'essentiel que ces biens ne font pas mal aux consommateurs où qu'ils se trouvent. C'est ça le truc. Donc, nous sommes avec le Codex Alimentaris. Le Codex Alimentaris est la norme standard du commerce international sur laquelle, s'il y a un conflit, c'est la seule norme avec laquelle on peut aller au tribunal. On peut régler les litiges. Donc, le Codex Alimentaris, l'Afrique est harmonisée avec le Codex Alimentaris. Mais il y a des spécificités à l'Afrique. Il y a des produits qui ne se produisent pas ailleurs. Pourquoi on nous impose des normes de produits qui n'existent pas ailleurs sur nos territoires? C'est la faute aux Africains aussi, c'est notre faute.
Absolument.
Voilà, donc il y a cet effort de construction. Donc, par rapport à cela aussi, les systèmes de certification sont en train de créer un grand problème parce qu'ils constituent un blocage. Les Africains n'ont pas les moyens d'acheter certaines technologies très coûteuses et qui sont périssables en plus. Il y a ce problème qu'il faut gérer aussi. Je peux acheter une technologie avec des milliards de dollars, dans 5 ans, elle est obsolète. Il y a ce grand problème. Donc, c'est pour cela qu'il faut développer des partenariats avec le public et le privé, à l'intérieur de l'Afrique, à l'extérieur de l'Afrique, avec selon des accords win-win et selon que les possibilités le permettent pour l'Afrique. Nous ne devons pas accepter tout ce qui doit nous être imposé, soi-disant, pour faciliter le commerce.
D'accord. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, Amina Younsi, pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Amina Younsi, experte algérienne en agriculture et en infrastructure agricole de qualité. Amina Younsi, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. L'adoption de technologies améliorées, je crois que c'est quelque chose que vous avez déjà abordé en répondant à la dernière question de la première partie, est susceptible d'augmenter les rendements et de réduire les pertes après récolte. C'est parce que ça, c'est l'un des problèmes quand même. L'Algérie, par exemple, il ne se passe pas une année où on ne montre pas des milliers de tonnes de produits agricoles qui ont péri comme ça, sans être commercialisés ni sur le sol national, ni à l'international. Bien. Alors, et outre les efforts d'acquisition de technologies, une approche globale intégrant les investissements dans la recherche et la vulgarisation agricole est nécessaire. Et une attention particulière doit être accordée aussi au bon fonctionnement des marchés, des intrants, c'est très important, et des produits, parce que quand même les semences ou les graines, beaucoup de pays les importent de l'étranger. Alors, à votre avis, comment devrait s'articuler une telle politique pour faire de la sécurité et de la souveraineté alimentaire une question citoyenne de sécurité nationale?
D'abord, il faut savoir que les pays africains ont ratifié beaucoup de conventions internationales liées à la préservation de la biodiversité, sur la lutte contre la désertification, sur les changements climatiques, sur l'accès et le partage des avantages liés à l'exploitation des ressources génétiques, sur les biotechnologies. Mais la question de souveraineté doit être répercutée dans cette ratification. Nous avons ratifié pour être au contraire dépendant des pays du Nord. Vous savez que le grand fossé qui existe entre le Nord et le Sud, c'est quoi? Les pays du Nord sont producteurs de technologies. Les pays du Sud sont producteurs de matières premières indispensables aux technologies du pays du Nord. L'équilibre, le fossé qui se creuse, c'est quoi? C'est que les biotechnologies, ce sont les technologies qui utilisent le vivant, c'est-à-dire les semences, ont besoin des gènes. Les gènes, c'est quoi? C'est une potentialité d'une graine qui se transforme en valeur économique. Ces gènes-là sont devenus des marchandises pour le contexte international. Aujourd'hui, on nous demande de donner nos gènes contre des technologies périssables. Et ça, c'est un échange inégal et inéquitable. L'Afrique doit revoir toutes ses ratifications et de revoir ses systèmes d'accès et de partage, et de revoir et d'exiger qu'il y ait une répartition juste à chaque partie des chaînes de valeur. Par exemple, pourquoi moi, en Africain, je donne de la semence qui est stockée dans les grandes banques internationales en Europe et en Amérique, en Norvège? Pourquoi je n'ai pas accès à ma semence? Pourquoi elle est sous les verrous de systèmes juridiques tels que les brevets? Pourquoi elle est dans des banques de semences où des systèmes sont mis en place pour que je n'ai plus accès? Pourquoi les Africains ne participent pas à la recherche-développement dans la création variétale avec les multinationales de l'agro-business? Pourquoi? C'est nous qui fournissons les matières premières. Les pays du Nord sont à la recherche des semences qui font nourrir le monde, celles qui résistent au sel, celles qui résistent à la sécheresse, parce que la sécheresse a atteint tous les pays du monde. Absolument. Et les multinationales sont à la recherche toujours de la nouveauté en matière
mais,
de semences.
Madame Younsi, ce que vous venez d'expliquer là, c'est extrêmement important, et j'aimerais bien que vous éclaircissiez un peu la chose. Alors là, vous dites que donc, la matière première pour produire la semence ou les graines part d'Afrique. C'est ça?
Elle part de Moyen-Orient et des pays, les pays vulnérables. Pourquoi?
Oui, comment ces grandes entreprises de l'agroalimentaire qui pratiquent ce monopole et tout, comment elles arrivent à s'accaparer ces graines ou ces semences qui partent d'Afrique et puis les revendre peut-être à des prix exorbitants à des pays pauvres?
La réponse est très simple. Ce sont les États qui développent des programmes de recherche agricole avec des institutions des pays développés, mais ces institutions de recherche des pays développés ont, elles aussi, des contrats sous portefeuille avec des multinationales de business. Est-ce que, par exemple, les institutions algériennes publiques ont des contrats avec des grandes multinationales? Non, nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore éveillés à ça. Les chercheurs africains n'ont pas encore ce réflexe de développer un brevet sur une plante afin de développer une variété et de la vendre à l'Occident. D'accord. Nous n'avons pas encore ça. Ça, c'est une grande erreur. Nous n'avons pas encore une banque de semences africaines. C'est révoltant. Il y a une petite banque en Éthiopie qui est gérée par un pays, par l'Allemagne. Il y a certes, il y a un réseau. Il y a 12 banques internationales de semences à l'échelle internationale, mais ne se trouvent pas en Afrique. Elles se trouvent, par exemple, il y a une banque qui est en Syrie, qui a été explosée après la guerre de Syrie, mais dont les échantillons dans les semences sont partis à Svalbard en Norvège, parce qu'il fallait préserver les duplicata des pays où ils ont été prospectés. Les semences qui contiennent les meilleures résistances pour l'avenir de la consommation mondiale, se trouvent dans les pays hostiles parce que la résistance se trouve là où il y a de la sécheresse, là où il y a un manque d'eau. Quand Absolument. Vous êtes sur une surface, vous voyez une plante qui résiste. C'est ce gène qu'on cherche. C'est pour cela que les programmes de recherche africains doivent être revus dans le fond parce que, par le biais des programmes politiques sous couvert de la coopération, les semences africaines partent ailleurs et sont mises sous les verrous par des mécanismes de protection juridique en utilisant des brevets et dans des banques internationales. Les pays africains sollicitent des compétences internationales dans le droit positif pour mettre des lois en Afrique. Et si vous sollicitez des experts internationaux, bien sûr, il est évident qu'ils vont faire des lois en leur faveur. Donc, il y a nécessité d'un développement des spécialités dans le domaine du droit afin que une autre spécialité puisse émerger, qu'il y ait des compétences pour pouvoir légiférer en Afrique pour le bénéfice
donc,
de l'Afrique.
Donc, Madame Younsi, l'accaparement des graines ou de ces gènes dont vous parlez, qui véhicule donc le code informationnel de la résistance à la salinité ou de la résistance à la sécheresse. Le problème, il n'est pas technique, il n'est pas scientifique, il est juste juridique.
Il est surtout juridique parce que normalement c'est ça le point de coopération avec les pays du Nord. Les pays africains doivent réfléchir que nous sommes en position de force pour même effacer les dettes africaines. Parce que si nous comptons ce que les pays du Nord ont pris de toutes les ressources locales, notamment dans les plantes médicinales, la pervenche rose de Madagascar qui produit la vinplastine et la vincristine et a fait le fleuron de l'industrie pharmaceutique occidentale. Pourquoi la Madagascar n'a pas profité des retombées et des royalties? Pourquoi il n'y a pas ça? Dans toutes les plantes, la force de l'Afrique, c'est les molécules. Pour la santé, pour l'industrie pharmaceutique. Il y a une course énorme à découvrir. Dans le problème de la ratification, il y a des textes qui disent explicitement que l'externalisation et l'exportation des technologies liées à la valorisation des semences se fera à des conditions de faveur. Comment ça? Les pays vous donnent les semences et vous, à des conditions de faveur, vous allez nous donner les biotechnologies? Et le problème des biotechnologies, c'est que les pays du Nord ont investi pendant des années et des années sur les biotechnologies pour pouvoir les rentabiliser. Le retour sur investissement, il est impossible. Moi, je ne crois pas du tout que les pays du Nord vont nous donner les biotechnologies. Regardez, par exemple, les bilans des jeunes Africains, ceux qui partent à l'étranger. Combien d'Africains sont sur les biotechnologies? Sur l'électronique, ok. Sur tous les domaines, mais les domaines du vivant, très peu, très très peu. Très, très peu sont acceptés, parce que ce sont des domaines privilégiés. Ah bon,
c'est comme dans toutes les technologies ultra-sensibles voilà. et qui déterminent l'avenir. C'est enfin à peu près 44 spécialités. En tout cas, dans les pays occidentaux, c'est carrément verrouillé de chez verrouillé.
Je voudrais souligner un mécanisme important, le brevet. Le brevet, c'est un système juridique de protection des innovations qui est fait pour une matière physique, quelque chose qui ne se reproduit pas. Vous produisez un stylo, le stylo, quand vous mettez un brevet, il ne va pas se multiplier, ce n'est pas de l'ADN. Mais une semence, elle se multiplie. Donc l'ADN d'une semence qui est brevetée, une fois qu'elle se multiplie, ses enfants aussi vont être brevetés. C'est très dangereux. Cette histoire est très dangereuse. C'est-à-dire, on nous a imposé ce mécanisme qui n'est pas le choix des sociétés africaines et l'Afrique n'a pas pris encore conscience. Bon, il y a des prises de conscience, je veux dire, mais d'une manière globale et vraiment annoncée, il faut stopper ce genre de mécanisme parce qu'il ne profite pas à l'Afrique, il n'y a aucune retombée sur des royalties. L'industrie pharmaceutique, l'industrie des pesticides aussi, les pesticides. L'Afrique peut produire des insecticides à partir des plantes, à partir des arbres. Regardez pendant la Covid, est-ce que l'Afrique a été atteinte? Non, parce qu'il y a eu des méthodes, parce qu'ils ont des pratiques anciennes qui les sauvent, parce qu'il y a des plantes exceptionnelles qui contiennent des molécules actives dont les pays du Nord aujourd'hui sont avides de découvrir. Ils ont la technologie pour le faire. Nous n'avons pas la technologie pour le découvrir, pour comprendre ce que nous avons. Regardez par exemple l'exemple des blés algériens. Beaucoup de blés algériens sont aux États-Unis dans une banque de gènes. Des variétés résistantes de palmiers aussi sont là-bas. Ce sont les anciennes variétés algériennes. Ce sont des variétés qui contiennent les résistances qu'il faut. Certes, elles ne produisent pas beaucoup, mais elles contiennent les résistances de l'avenir. Et pourquoi alors ces pays du Nord stockent ces semences? Pourquoi elles dépensent tant d'argent? Et pourquoi elles dépensent tant de fonds pour des mécanismes multilatéraux, pour privilégier les échanges? Pourquoi le fait? Pourquoi l'Occident va vers le bio et nous, on attend les engrais, on attend les systèmes productifs, les secteurs productifs qui ne sont pas adaptés? C'est là la grosse erreur.
Bien, alors juste, Madame Younsi, pour rebondir sur ce que vous venez de dire là tout de suite, pour cette question-là de bio, parce qu'il y a beaucoup qui disent que, par exemple, le bio versus les OGM, les organismes génétiquement modifiés, et ainsi de suite, le bio, oui, c'est bien, mais c'est fait pour les riches parce que nous ne pouvons pas produire assez de quantité pour nourrir tout le monde. Mais c'est mieux d'investir dans les OGM parce que les OGM, ça permet de produire assez de quantité et en très bonne qualité, plus ou moins, pour nourrir. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Est-ce que c'est vrai ou c'est juste de l'arnaque médiatique?
Non. Alors, il faut comprendre une chose. Produire bleu, c'est une philosophie. C'est-à-dire, c'est une philosophie de vie, c'est-à-dire on veut produire des produits sains, mais ça ne veut pas dire qu'en cas de crise, je ne peux pas utiliser un pesticide. Je ne laisse pas mes cultures mourir parce qu'il y a une invasion d'une maladie. C'est ridicule. Le bio, c'est une façon d'être. Je n'utilise pas systématiquement des pesticides. Il y a des règlements, il y a des annexes dans les règlements où des substances sont autorisées avec des doses, sages. Et c'est ça le bio. C'est vrai que.
C'est-à-dire non, juste en cas pas, de problème. Juste en cas de problème, on
juste
fait appel
au. Oui.
Voilà.
Juste en cas de problème. Il y a des dérogations qui sont. Il y a des notifications qui doivent être faites. Il y a des listes qui sont publiées. Il y a. Tout est fait pour ce système bio. Le bio n'est pas fait pour le riche. Le bio est fait pour tout le monde. Le bio est. Peut-être d'abord doit démarrer des exploitations familiales au niveau, par exemple, au niveau africain. Ouais, parce que, par exemple, le développement de l'élevage va favoriser le redressement des terres agricoles, ces terres agricoles dégradées. Quelle est leur solution? C'est l'élevage. Si on adapte l'élevage, on n'importe pas des Holstein, hein, on reste sur les races locales, on reste sur les plantes locales, on développe l'élevage, il y aura un redressement du taux de matière organique dans le sol. Ensuite, il y aura un développement des plantations, développement de la pisciculture sur une même exploitation. Il faut créer un système tournant. Dans ce système tournant, mettre en place les pratiques saines et durables de l'agriculture biologique. Et de là va émerger des produits locaux de nombre important d'exploitations africaines, des produits locaux sains et bio, de surcroît bio. On n'a pas besoin de mettre beaucoup d'argent pour faire du bio, ce qui est le contraire dans les pays du Nord. Ils sont en train de dépenser beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher en Europe de développer du bio qu'en Afrique. Par exemple, au Gabon. Oui, mais bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de territoires qui n'ont pas été touchés par les pesticides et les engrais. Simplement parce que les moyens n'ont pas permis à ces États de les accéder. Donc, c'est une perche, au contraire, sur laquelle il faut s'accrocher. Donc, le bio, c'est une alternative de santé. Par rapport aux OGM, il y a un problème crucial. C'est-à-dire, les OGM, c'est une lame à double tranchant. On peut utiliser des biotechnologies pour une cause noble et on peut utiliser les biotechnologies pour une cause non noble. Je peux utiliser une graine et lui mettre un virus dedans. Je l'exporte pour anéantir des États. Je peux produire une graine.
Absolument.
Et pour faire produire sur un mètre carré 10 000 plants, c'est noble. Donc, c'est tout dépend de ce qu'on fait de la technologie. La science n'est pas neutre. Il faut être prudent, très, très prudent sur l'interprétation des utilités de la science. Aujourd'hui, les biotechnologies, vous savez que de demain, un demain très proche, une bactérie va représenter une usine, simplement, puisque la bactérie, elle va remplir toutes les fonctions de ce que fait une usine avec sa ligne de production, ce béton, ses infrastructures, parce qu'on pense maintenant au recyclage, à la planète. Où vont partir toutes ces infrastructures, les déchets de l'industrie, où est-ce qu'ils vont partir tous ces déchets? C'est pour ça que les biotechnologies aujourd'hui sont en train d'utiliser des méthodes en utilisant le vivant, l'ADN, c'est l'usine. C'est l'ADN, l'usine. On utilisera demain les semences comme support et non pas comme produit agricole. Ce sont des semences qui vont produire, par exemple, des protéines. On utilisera des bactéries pour produire des médicaments. Est-ce que nous, on est prêt à ça? C'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, on est en train de produire des médicaments à base d'interférons, des médicaments qui utilisent de l'ADN. Est-ce que nous, on est capable aussi d'importer, même si ce sont des médicaments qui vont résoudre des solutions au niveau de la santé, peut-on contrôler ces médicaments? Et s'il y a un risque de dissémination négative de ces OGM, comment qui va prendre la responsabilité? A-t-on mis une politique africaine pour gérer les responsabilités? Qui va payer les dégâts? Tous ces instruments n'ont pas été étudiés.
Encore une autre question, Madame Younsi, parce que c'est très intéressant et passionnant ce que vous développez. Il y a donc pour la refertilisation des sols, vous avez dit que la meilleure solution, c'est l'élevage. Mais là, encore, les gens qui sont très, très défenseurs de cette théorie du changement climatique disent que l'élevage, il va encore contribuer au réchauffement climatique parce qu'apparemment, passez-moi l'expression, ils découvrent en 2023 ou 2022 que les vaches pètent. Donc, il y a le CO2 qui sort. Alors, qu'est-ce que...
Moi, je trouve que c'est franchement ridicule. Retournons à la nature. La nature, la terre, l'humain, le sol, les animaux. L'équilibre, il est là. S'il y a une faille qui est rompue, tout est rompu. Il faut veiller à ce que la chaîne trophique soit respectée dans cette liaison homme-nature-animale. Donc, moi, en tant qu'agronome, je suis franchement pas d'accord du tout. Parce que ce ne sont pas ces vaches-là qui sont en train de polluer l'atmosphère. Franchement. Parce que si on doit réétudier les équilibres, ce seront les autres qui devront payer à l'Afrique et non pas l'Afrique qui doit payer. Et les pays sous-développés payer par rapport à la pollution, par rapport au taux de carbone. La reforestation. Par exemple, en Algérie, le programme du barrage vert est en train de se développer. On a pris conscience qu'il faut vraiment faire vite. On doit intégrer plusieurs espèces qui vont freiner l'avancée du sable. Et aussi, pas simplement que ça, mais développer des chaînes de valeur à l'intérieur de ce barrage vert. Ce n'est plus le pain d'Alep tout seul, où les gens qui habitent par-ci et par-là ne trouvent rien à faire. Non, il faut développer des exploitations familiales, des coopératives, produire avec ces variétés, ces essences forestières. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. L'huile de pistache en Algérie, elle fait 3500 dinars le litre. Les marchés occidentaux l'achètent à 50 000 dinars le litre. Pourquoi en Algérie, on n'arrive pas à la vendre à 50 000 dinars? Et on pourrait en faire un revenu pour chaque individu à l'intérieur d'une famille rurale et qui vit dans les forêts. Alors, sachant que nous avons, pour 100 millions d'hectares de chêne liège, nous avons 60 000 hectares de pistaches, de lentisques, dro, ce qu'on appelle chez nous le lentisque. Donc, cette valorisation de cette huile veut dire la stabilisation des familles dans la ruralité, veut dire l'augmentation des revenus de chaque membre de la famille grâce à cette huile. L'exemple en Afrique, c'est la même chose. Il est essentiel de réfléchir chaîne de valeur, filière. Si une chaîne de valeur tend à émerger, il faut l'appuyer. Les politiques agricoles africaines doivent miser sur les chaînes de valeur qui visent à valoriser la ressource locale. Par exemple, personnellement, le riz n'est pas une culture pour l'Afrique. Le riz consomme de l'eau. On a détruit le Sahel à cause du riz. Il y avait le millet qui était cultivé avant, mais quand on a introduit le riz, on a tué le Sahel parce qu'il fallait beaucoup d'eau. On a mis des engrais. Ensuite, il y a eu la salinité. Les terres dégradées ne cessent pas d'augmenter. C'est grave. Donc, l'objectif de l'Afrique, c'est d'augmenter le nombre de surfaces agricoles arables utiles.
D'accord.
Donc, par rapport à tout ça, les biotechnologies seront les bienvenues en Afrique, mais il faut qu'elles fassent du bien à l'Afrique. Et d'accord, nous ne pouvons pas accepter des produits issus des OGM de l'extérieur si nous n'avons pas des moyens de les contrôler. N'est-ce pas, nous sommes dans un espace international commun. Nous devons tous avoir cette conscience que le consommateur, où qu'il se trouve, doit manger sainement,
d'accord,
et doit être protégé. Voilà.
D'accord. Alors là, on arrive à la dernière question, Madame Younsi, avant de conclure sur cette émission. Est-ce que, par rapport à ce que vous venez de développer maintenant, vous pensez qu'un partenariat avec la Russie, la Chine, qui ont pas mal développé ce genre de biotechnologie dans l'agriculture, serait bénéfique à l'Afrique? Et comment on pourrait mettre en place justement cette coopération?
Donc, il faut rappeler quand même historiquement, la Russie et la Chine sont des alliés de l'Afrique parce qu'ils ont soutenu les mouvements de libération de l'Afrique. Et c'est ça qui constitue un petit peu la base de la confiance et les fondamentaux sur lesquels va construire ce partenariat. La Chine est intéressée à développer scientifiquement, techniquement l'Afrique, et la Russie souhaiterait développer les opérations liées à la sécurité, les aspects militaires dans la région. Donc, ce sont les deux aspects importants de coopération. Et bien sûr, l'Afrique du Sud sera un allié important dans la région. Bien sûr, les premières ébauches sont en train de se dessiner finalement. Donc, bien sûr, le partenariat Chine-Russie pour l'Afrique est le bienvenu. Il y a tous les indices positifs pour ça, les indicateurs positifs pour ça.
D'accord. Et par rapport à la biotechnologie, est-ce qu'il y a matière à faire quelque chose?
Grâce à ces biotechnologies, je suis convaincue que les problèmes de sécurité alimentaire vont être résolus. Ça va aller très, très vite. Et non seulement ils vont être résolus sur le plan quantitatif, mais qualitatif, parce qu'on produira des plantes avec des niveaux de protéines voulus. On produira des animaux avec un niveau de protéines voulu, et ainsi d'accord, de suite. Donc, conformément aux besoins nutritionnels de la population africaine.
D'accord. Ben, je veux remercier Madame Amina Younsi. Je rappelle que vous êtes experte en agriculture et en infrastructures agricoles de qualité. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. J'espère que nous avons réussi à poser cette grave problématique de la nutrition, de la sécurité et de la souveraineté alimentaire et agricole. Et j'espère vous retrouver dans un autre entretien. Vous nous avez beaucoup enrichi avec les développements que vous avez faits en répondant à nos questions. Et donc, merci encore une fois et à très bientôt.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.
C'était Amina Younsi, experte algérienne en agriculture et infrastructure agricole de qualité. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.